l'espace Mendès France dans le cadre de l'histoire des sciences. Donc j'ai saisi l'opportunité de ces journées. Vous allez parler des OGM entre responsabilité et précaution. Vous êtes directeur de recherche unité INRA, transformation sociale et politique liée au vivant, co-directeur de la collection Sciences en question de l'INRA. Et vous avez travaillé, développé vos recherches sur la dynamique des systèmes agraires et donc sur la production historique des paysages ruraux, ce qui est très intéressant. Vous êtes spécialisé dans l'étude des usages, des représentations, des conflits d'usage, des conflits d'image de la forêt, puis plus généralement de la nature. C'est à ce titre que vous avez été membre du Conseil national de protection de la nature de 1986 à 1994 et vous êtes actuellement membre du Conseil scientifique du Parc national de la Vanoise et président du Conseil scientifique du Parc national de Mercantour. Merci pour tout, je n'ai pas tout dit, mais on trouve tout sur Internet. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Larère.
Bon, j'ai une demi-heure. Une heure de...
Oui,
d'accord. Deuxièmement, je m'en tiens à des OGM végétaux ou végétaux et animaux.
Allez-y. Non, pas de problème. Les deux. De toute façon, c'est ce qu'on a abordé les deux.
D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, deux grandes firmes, Monsanto et Scott, ont mis au point par transgenèse la première plante herbacée génétiquement modifiée. Il s'agit d'Agrostis stolonifera, espèce particulièrement prisée pour les pelouses de terrain de golf. Cet Agrostis a été modifié pour résister au glyphosate, herbicide total fabriqué par le même Monsanto, plus connu sur le nom de Roundup. Le semis de cet OGM sur tous les golfs de la planète devrait permettre de préserver au moindre coût une pelouse d'Agrostis du développement d'espèces concurrentes. Certes, mais comme l'ont fait remarquer les environnementalistes, le gène de résistance à l'herbicide pourrait se transmettre par pollinisation à des agrostis sauvages ou à des espèces apparentées. Il se diffuserait ainsi hors des terrains de golf en des lieux où cette résistance à l'herbicide pourrait être indésirable. En réponse à cette contestation, des essais ont été effectués dans l'Oregon. Essais en plein champ. Là, la légèreté du pollen d'Agrostis est telle que l'OGM a pollinisé des plantes de la même espèce aussi loin qu'ont porté les essais, à savoir 13 miles, donc environ 21 km. Jusqu'alors, sur soja, maïs, colza ou coton transgénique, on avait très rarement constaté de pollinisation par l'OGM au-delà du mile, hein, de 1,5 km, 2 km, quoi. Le gène de résistance au glyphosate peut donc être dispersé très loin des terrains de golf, chose qui est d'autant plus préoccupante qu'Agrostis stolonifera peut s'hybrider avec une douzaine d'espèces apparentées et que ces espèces apparentées sont toutes des plantes adventices des cultures céréalières. Ces résultats ayant été publiés, le département de l'agriculture US a demandé une étude d'impact. Une polémique s'est alors développée. En faveur de l'OGM, les experts de Monsanto et Scott avancent que cet agrostis est dédié aux terrains de golf. Or, ceux-ci sont si fréquemment fauchés qu'il est fort peu probable qu'en un lieu quelconque, l'agrostis aura le temps d'épier et de diffuser son pollen. Si par malheur ça advenait, il serait toujours possible de se débarrasser des agrostis résistants au Roundup en utilisant un autre herbicide. Ceux qui s'affirment hostiles à l'OGM font remarquer que la traçabilité, déjà pas très fiable aux États-Unis, n'est pas le fort de tous les pays où on a installé des golfs. Que l'agrostis résistant soit destiné au terrain de golf ne signifie donc nullement qu'on ne le retrouvera jamais et nulle part dans les prairies d'agriculteurs ou les pelouses de jardins privés. Il y aura donc nécessairement dispersion d'adventices résistantes au Roundup. Remarque, le glyphosate est quand même l'herbicide le mieux adapté au système de culture sans labour, culture qui présente en particulier aux États-Unis de nombreux avantages pour lutter contre l'érosion, en particulier l'érosion éolienne. Bon, je laisse la controverse se poursuivre. Je vais en venir à Lucifer. Lucifer est né à l'INRA. C'est un taureau transgénique et cloné. Autant dire qu'il est le rescapé d'un grand nombre d'autres embryons qui ont subi les mêmes opérations, mais ne sont pas parvenus à vivre. Le programme de recherche pour lequel il a été fabriqué et dans lequel il était impliqué s'est achevé, si bien qu'il n'a plus d'utilité scientifique. Ce ne serait pas grave si Lucifer était un bovin normal. Et Lucifer est violent, stressé, dangereux. On a peur de lui. Un jour ou l'autre, un animalier va prendre un mauvais coup. Et donc la question se pose, faut-il tuer Lucifer ? Il va y avoir une discussion au sein de l'unité. Il n'est pas évident aux yeux de tous que ce soit la seule solution. Certains argumentent que lorsqu'il a été décidé de faire venir à l'existence un taureau cloné et transgénique, il était prévisible qu'il deviendrait dangereux, puisqu'un tel taureau devait nécessairement vivre confiné et ne pas se reproduire. D'autre part, si on l'appelait Lucifer, c'était parce qu'on a utilisé la luciférase dans le cadre de la transgénèse, mais que le travail, la transgénèse portait sur l'expression d'une protéine de stress. Et donc, c'était un taureau qui était assez, assez fortement stressé, en plus. Le supprimer, c'est ainsi se débarrasser d'un problème encombrant qu'on aurait pu, qu'on aurait dû anticiper. C'est oublier que l'équipe a une responsabilité dans l'existence même de Lucifer, puisque celui-ci n'aurait jamais vécu s'il n'avait été fabriqué dans le cadre d'un programme de recherche. Alors, supprimer Lucifer n'est pas un acte moralement neutre, parce qu'il s'agit d'un être sensible et qu'on ne peut le traiter de la même façon qu'on enverrait un outil de laboratoire obsolète à la casse. En fin de compte, Lucifer sera quand même euthanasié. Alors, on ne va pas le tuer, on va l'euthanasier. C'est une façon de euphémiser la chose. Décision relevant de diverses considérations, la crainte qu'il ne blesse gravement un des agents chargés d'en prendre soin, le fait qu'on ne savait pas trop quoi faire de lui et que son entretien coûtait très cher, peut-être, j'en suis à peu près persuadé, j'en ai discuté avec les personnes, le dépit de ceux qui se voyaient brutalisés par cette sale bête dont ils avaient d'autant plus pris soin qu'ils avaient craint pour sa santé. La santé de cet animal qui était le rescapé d'une véritable hécatombe de clones. Il faut voir que les clones, c'est 2% de réussite. Et que donc, les techniciens animaliers, ils font très attention dès qu'il y a... Bon, quand il y a un clone qui naît, il y a environ 60% des clones nés vivants qui parviennent à l'âge adulte seulement. Et avant, ils ont dû faire plein d'avortements, plein de... C'est pas très agréable pour un technicien animalier de pratiquer des avortements en pagaille, surtout que certains sont très tardifs, c'est le syndrome du gros veau, et puis ils ont des petits veaux qui sont mal fichus, donc quand ils arrivent à en sortir un normal, bien portant, etc., ils le bichonnent comme un animal de compagnie. Donc il faut tenir compte de cette situation. Alors, ces deux anecdotes montrent assez clairement que les OGM végétaux ou animaux et les clones de mammifères sont des êtres hybrides. Ils sont naturels et en même temps ce sont des artifices. La grostisse génétiquement modifiée est un organisme naturel, capable de persévérer dans son être, dans son existence, de concurrencer d'autres espèces et de se reproduire et de diffuser son pollen. C'est pourquoi d'ailleurs, son utilisation sur les parcours de golf pourrait avoir des conséquences agronomiques et environnementales dommageables. Mais c'est parce que cet OGM est un artefact que l'on rend les firmes qui l'ont créé responsables des éventuels dommages, les accusant d'avoir tout simplement négligé de prendre en compte la puissance de diffusion d'agrostisse. C'est parce que Lucifer est un être naturel et de cette catégorie particulière des êtres naturels que sont les êtres sensibles, que sa mise à mort n'est pas tout à fait innocente et qu'elle doit être justifiée. C'est parce que ce méchant taureau est un artefact que dans la discussion sur le sort qui convient de lui réserver, s'est posée à l'intérieur même du laboratoire la question de la responsabilité des collègues qu'il avait amenés à l'existence. De façon générale, nous ne nous comportons pas de la même façon envers des êtres que nous considérons comme naturels et à l'égard de ceux que nous caractérisons comme nos artifices. Les premiers relèvent d'une éthique du respect, caractéristique des éthiques environnementales, ou s'agissant d'animaux, des éthiques animales. Parce qu'ils sont le produit d'un dessein humain, les êtres artificiels, au contraire, n'ont pas d'altérité et relèvent de la responsabilité de tous ceux qui ont contribué à les produire. On peut donc dire qu'en s'appropriant le vivant, en le transformant par des opérations de génie génétique, les réseaux socio-techniques qui conduisent à la prolifération de ces êtres hybrides que sont les transgènes et les clones s'en rendent responsables. L'effacement de la distinction entre nature et artifice conduit ainsi à une extension de la responsabilité. C'est pourquoi je voudrais exposer ce sur quoi porte cette responsabilité en prenant d'abord le cas bien documenté des OGM végétaux. Le génie génétique a été présenté comme une révolution scientifique et technologique majeure. C'est ce qui le légitime aux yeux de ses promoteurs, et c'est pourquoi il n'hésite pas à employer une rhétorique prométhéenne. Mais c'est aussi pour les mêmes raisons que les détracteurs le redoutent. La crainte des uns est à la mesure de la puissance supposée de ces manipulations du génome. Or, si on examine les controverses scientifiques et le débat social qui s'est instauré au sujet des OGM, si on observe les pratiques de laboratoire, nous en avons eu un petit exemple tout à l'heure pour une partie d'entre nous, ça a conduit plutôt à avancer que la transgénèse est un bricolage. Un bricolage sophistiqué, au résultat parfaitement aléatoire. Et que ça relève d'un pilotage, plus que d'une construction, d'un pilotage pas très bien maîtrisé de processus naturels. Après de multiples essais et erreurs, en particulier, bon, moi j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui travaillent sur animaux. Hein. Donc les essais et les erreurs sont encore plus nombreux que sur les plantes, je suppose. Après de multiples essais et erreurs, on se contente de parvenir parfois à inscrire un caractère inédit dans un organisme. Encore, s'agit-il pour l'instant d'un caractère contrôlé par un unique gène et relativement peu de caractères le sont. Ce n'est donc pas sans emphase, ni sans croyance en la toute-puissance de la génétique moléculaire, que l'on a fait de ce génie une révolution technologique, qui pour les uns assure une maîtrise inédite de la nature et qui conduirait selon les autres à une artificialisation problématique et lourde de conséquences du vivant. C'est la raison pour laquelle moi j'y verrais beaucoup plus une sorte de bluff technologique, un bluff que rend crédible le mythe du tout génétique. La découverte de la structure de l'ADN a permis de traiter les processus cellulaires de la synthèse des protéines comme des mécanismes de transfert d'informations. Que cette découverte ait été contemporaine du développement de l'informatique a fortement influencé l'interprétation que les biologistes firent du rôle des gènes dans le fonctionnement cellulaire. Ernst Mayr proclamait ainsi dès 1961 qu'un programme génétique est inscrit dans la séquence nucléotidique des ADN et que ce programme fournit une explication mécanique, je le cite là, au développement orienté des organismes. La métaphore du programme génétique a conduit les biologistes, et plus encore ceux qui ont vulgarisé leurs travaux, à postuler que tout est dans le gène. C'est dans le génome, ce génome que les généticiens séquencent, décryptent et manipulent à grand renfort de moyens publics, privés et charitables, que résiderait le secret de la vie, et même l'identité des organismes, voire lorsqu'il s'agit d'humains, certains traits de leur psychisme. Vous vous souvenez sans doute, nous sommes sans arrêt abreuvés d'effets d'annonce, tant sur les découvertes de gènes prédisposant à l'obésité ou à l'intelligence, ou le gène de l'homosexualité, et même celui, d'après Sarkozy, de la pédophilie. C'est ce que critique d'ailleurs Jacques Testard. En réalité, je le cite, « les déterminations du vivant impliquent un réseau complexe d'interactions entre les gènes et les protéines, et entre les gènes, les protéines et l'environnement. Ramener cette complexité interactive à l'exécution d'un programme, c'est faire croire que l'ADN recèle les secrets de la vie, de l'identité, des déviances et des pathologies. Mais c'est faire croire, dit-il. Si c'est dans le génome que réside le secret de la vie, c'est là aussi que réside le sacré de la vie, pour certains. Manipuler, modifier le génome, sans souci des barrières d'espèces, c'est alors voler le secret des dieux. Ceux qui le font pensent se réoler de leur prestige, d'où leur rhétorique prométhéenne, hein, je suis Prométhée, je vais voler le feu aux dieux, et les autres y voient un sacrilège et le dénoncent en tant que tel. Mais si on abandonne, comme le propose Henri Atlan, la métaphore du programme génétique, on ne pénètre pas plus le secret de la vie et on ne viole pas plus le sacré de la vie en manipulant le génome qu'en étudiant et en modifiant le métabolisme cellulaire. Si tout n'est pas dans le génome, il n'y a aucune raison de considérer qu'il ne faut surtout pas y toucher. Pas plus qu'il n'y a de raison d'affirmer qu'en transférant un seul gène dans le génome d'un autre, on s'oriente vers une maîtrise accrue et inédite du vivant. Elle est certainement inédite, mais progrès quand même très limité. Si l'on abandonne ainsi le mythe du tout génétique, la transgénèse, qui fut d'abord et qui demeure une technologie de laboratoire, est une manipulation moralement légitime. Il n'y a pas d'objection de principe. Ce qui a posé problème, c'est que cette technique de laboratoire est sortie du champ de la recherche scientifique et que des organismes génétiquement modifiés ont été en mesure d'être commercialisés et diffusés massivement de par le monde. Aussi, la question de savoir si on avait bien le droit de toucher au génome, c'était bien permis, s'est déplacée peu à peu à la raison d'être des OGM, puis à la responsabilité de ceux qui s'en sont fait les promoteurs, compte tenu des conséquences envisageables de leur diffusion à grande échelle. Alors, cette question s'est focalisée dans un premier temps et continue malheureusement, de mon point de vue, à se focaliser sur les risques sanitaires et environnementaux. Ce qui pose problème quant au comportement des OGM dans la nature, comme dans les corps qui les absorberaient, c'est que dans un premier temps, il était largement inconnu. Puisque des risques étaient supputés, argumentés, mais mal cernés et non prouvés, il a donc paru prudent de soumettre la commercialisation de tout OGM à une obligation de réduire l'incertitude concernant leurs effets sanitaires et environnementaux. D'où l'application du principe de précaution, qui revient à suspendre la décision d'introduire une innovation, ou bien à l'encadrer de mesures préventives dont on ne sait même pas si elles seront nécessaires, le temps de réduire l'incertitude concernant l'existence d'un risque. Or, ce temps est aussi celui de laisser se développer les controverses scientifiques sur les risques encourus. Ce qui pose problème quant à la raison d'être des OGM, on verra que c'est moins la technique elle-même que sa finalité, la possibilité offerte à quelques entreprises d'acquérir une position de monopole et de contrôler l'essentiel de la production agroalimentaire. De façon générale, les innovations ne s'imposent pas au-delà de résistances passéistes dans un monde tout prêt à les accueillir. Elles supposent un certain nombre de transformations du monde et leur réussite en apporte de nouvelles. on peut argumenter que les OGM sont indissociablement liés, dès que l'on a eu l'idée de valoriser la transgénèse, à un système économico-technique qui s'est construit avec eux. On ne parlerait certainement pas d'OGM s'il n'y avait eu, renforcé par les espoirs que faisaient naître les discours prométhéens des chercheurs concernant les manipulations génétiques, concentration de la sélection variétale dans une poignée de firmes de l'agrofourniture. On ne parlerait certainement pas d'OGM et ça n'intéresserait certainement pas les firmes s'il n'y avait pas eu conjointement une extension quelque peu problématique du champ de la brevetabilité. Et ça aussi bien dans l'informatique qu'au niveau des animaux. Alors je voudrais m'étendre un peu sur cette question du brevet. Le brevet est une disposition juridique dont l'objectif était de concilier la libre circulation des connaissances et la protection des inventeurs. Il s'est agi de permettre à celui qui avait conçu et mis au point une technique de bénéficier des utilisations ultérieures de son invention. En principe, le brevet ne s'applique donc pas aux découvertes. On ne saurait breveter un concept, un théorème, une loi physique, la découverte d'une enzyme ou celle de la structure de l'AGM, de l'ADN. Cependant, les industries chimiques et pharmaceutiques ont progressivement obtenu que l'on puisse breveter des procédés de synthèse de substances que l'on retrouve dans la nature, à l'état naturel. Avec le développement des biotechnologies et celui de la micro-informatique, on a assisté à une extension considérable du champ de la brevetabilité. On peut aujourd'hui, aux USA, breveter n'importe quelle séquence d'ADN dès qu'elle a été isolée selon un procédé quelconque et dès lors qu'il est prouvé qu'elle code la synthèse d'une protéine donnée et qu'on en connaît approximativement la fonction. Un peu plus restrictive, l'Europe exige en outre que l'on soit en mesure d'indiquer une possibilité d'exploitation industrielle, agricole ou médicale de cette découverte. Alors ça va poser deux questions. Est-ce qu'une telle extension du brevet est légitime? Et ça fait partie des transformations du monde, associées sans lesquelles il n'y aurait pas les OGM. À vrai dire, sur la légitimité de cette extension, les généticiens sont eux-mêmes divisés. Je dirais que la majorité, quand même, des biologistes moléculaires n'y voient guère de malice. Pour eux, toute séquence d'ADN est une molécule, et en tant que telle, elle est susceptible d'être brevetée, et ce depuis longtemps, dès l'instant où on est parvenu à l'isoler et à établir certaines de ses propriétés fonctionnelles. Mais à ce réductionnisme chimique s'oppose le réductionnisme informatique. De ce point de vue, d'autres généticiens, plutôt des généticiens des populations d'ailleurs, je pense à Pierre-Henri Gouillon et les gens qui le suivent, considèrent que une séquence d'ADN codant pour une synthèse quelconque est assimilable à une information et que décrypter cette information, c'est une découverte, et qu'il n'y a donc pas matière à breveter. On a fait en outre remarquer que cette extension de la brevetabilité est solidaire d'une conception des mécanismes génétiques qui est aujourd'hui largement remise en cause par les développements de la génomique, de la transcriptomique, etc. On a en effet longtemps considéré qu'un gène contrôlait la synthèse d'une protéine et que cette protéine avait une fonction biologique bien déterminée. Donc un gène, tac, une enzyme ou une protéine, tac, une fonction. Ben c'est comme ça qu'on peut breveter. On sait désormais que plusieurs gènes interviennent dans la synthèse de très nombreuses protéines et qu'un gène quelconque intervient fréquemment dans la synthèse de plusieurs protéines. Ça va avoir deux conséquences. Premièrement, breveter un gène en raison d'une de ses fonctions biologiques, c'est d'abord négliger les interactions à l'intérieur du génome, interactions épistatiques, et les interactions entre le génome et le cytoplasme, interactions épigénétiques, qui en fait régulent et oriente l'expression de ce gène. C'est s'approprier ainsi et indûment un fond génétique qui permet à l'information contenue dans le gène de s'exprimer. C'est ensuite ouvrir la voie à un système de brevets en cascade, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Si la question donc de la légitimité de cette extension de la brevetabilité est en débat et rejoint des controverses qui sont épistémologiques, ses conséquences en sont déjà suffisamment connues pour qu'une évaluation conséquentialiste invite à la plus grande prudence. J'ai déjà évoqué la plus connue d'entre elles, la possibilité offerte à une poignée de trusts de contrôler l'ensemble de la sélection variétale et du marché international des semences, mais aussi d'orienter la recherche publique dans le sens qui convient à leur stratégie. Dans les trajectoires qui conduisent d'une transgenèse en laboratoire à une innovation, la recherche publique supporte ainsi le coût d'un bricolage technique, la transgenèse, qui a un rendement très faible, et les trusts de l'agrofourniture bénéficient d'une innovation dont ils n'ont supporté qu'une partie du coût, pas les salaires en tout cas. Je voudrais ici insister sur une conséquence qui a été bien mise en évidence, en particulier par Bertrand Hervieux, l'ancien président de l'INRA, et Pierre-Benoît Joly. Cette extension de la brevetabilité a des effets pervers qui vont à l'encontre de la raison d'être qui fut celle du brevet. En effet, la multiplication des brevets, y compris dans la recherche publique, aboutit dans diverses situations à entraver aussi bien la circulation des connaissances que l'innovation. Un exemple parmi d'autres, un riz qui va être sans doute commercialisé, le Golden Rice, qui, obtenu par transgenèse, qui permettait d'augmenter la tenue en vitamine A du riz et qui a été présenté comme une illustration de l'intérêt que pouvaient représenter les OGM dans la lutte contre la malnutrition. Mais pour obtenir cet OGM, l'Université de Zurich a utilisé des moyens protégés par brevet. Et partie, la construction génétique était protégée par brevet. Pour diffuser le Golden Rice, il a fallu ainsi négocier des licences avec une douzaine de firmes propriétaires de 70 brevets, ce qui a conduit ce riz à un coût de réalisation rédhibitoire. Ces phénomènes de dépendance de brevets par rapport à des brevets antérieurs tiennent au fait que certains procédés indispensables à la réalisation de transgenèse ont été brevetés, et ils tiennent aussi au fait qu'il est rare, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'une séquence d'ADN ne contrôle qu'une fonction cellulaire, et qu'inversement, plusieurs séquences sont généralement sous le contrôle de plusieurs gènes. Il suffit alors qu'un brevet ait été déposé en raison d'une fonction connue pour que l'exploitation de toute autre fonction de la même séquence soit dépendante de l'ancien brevet. C'est ainsi, par exemple, que l'Université libre de Bruxelles, à l'issue de recherches coûteuses, a montré qu'une séquence d'ADN joue un rôle important dans l'infection d'une cellule par le virus du sida. Mais l'ADN complémentaire de cette séquence, qui commande la synthèse d'une protéine membranaire, a été breveté par la firme Human Genome Science, qui avait les dents très longues, et ça a entravé toutes les recherches ultérieures, en dépit de possibles avancées médicales que laissait espérer la découverte des chercheurs belges. En fin de compte, la capacité accordée à des laboratoires, des start-up ou des firmes de breveter des séquences d'ADN et donc d'apposer leur signature sur des génomes conduit en raison des phénomènes de dépendance à des coûts de transaction importants auxquels seules les entreprises les plus puissantes peuvent consentir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a assisté à de nombreuses fusions entre ces trusts et à la prise de contrôle de start-up. Dans un tel contexte, le brevet ne protège guère les laboratoires de recherche publique qui ne bénéficient pas systématiquement de licences gratuites à des fins de recherche et n'ont pas les moyens de défendre leurs propres brevets en justice face à des multinationales capables de financer les meilleurs cabinets d'avocats et de supporter les frais de longs procès. Je me souviens d'avoir posé la question à la présidente directrice générale de l'INRA en lui disant, bah, écoute, imagine que Monsanto pique un matériel avec dépôt de brevet de l'INRA. Qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, je laisse couler. j'ai pas les moyens de lutter contre Monsanto. Tout se passe comme si une extension pour le moins controversée, en tout cas contestable, du champ de la brevetabilité dévoyait ce qui avait jadis légitimé cette forme de protection qu'est le brevet. La brevetabilité dans les domaines des biotechnologies ne garantit plus que médiocrement la mise à la disposition des résultats de recherche et ne protège l'invention, qui n'est d'ailleurs qu'une découverte, qu'au prix de l'asservissement de l'inventeur, ou plutôt du découvreur, aux entreprises qui ont les moyens financiers d'exploiter sa découverte. Alors, à ces transformations du monde que j'ai illustrées par le brevet, associées, qui sont d'une certaine façon, comme aurait dit Simondon, un milieu associé à la technologie. Cette technique, elle a besoin d'un milieu associé pour vivre. Et ce milieu associé, là, il est juridique. À ces transformations du monde associées à l'innovation se combinent celles qui seraient induites par la diffusion d'OGM à grande échelle. Focalisation de la sélection variétale sur une gamme relativement restreinte d'espèces et de variétés de ces espèces, ce qui signifie une diminution de la diversité génétique des cultivars. Dépendance des producteurs agricoles et des consommateurs vis-à-vis de la stratégie des firmes. Difficile coexistence des filières avec ou sans OGM. Je pense que... Alors, il y a eu tout un débat à un moment donné. Les gens qui étaient pour les OGM disaient, oui, mais attention, bon, d'accord, on risque de gêner nos voisins qui sont en agriculture biologique. Mais eux, en refusant absolument les OGM, ils auraient pu les accepter, et rester en agriculture biologique, mais accepter les OGM, en les refusant absolument, ils nous interdisent de faire des OGM si on a envie de le faire. Et donc, d'une certaine façon, il y a un problème de liberté. Bon, je trouve que le parallèle n'est pas tout à fait exact, parce que à supposer que les OGM, ben ISBT par exemple, soient intéressants pour l'agriculteur et que ça diminue ses coûts de production. La présence d'un voisin qui est en agriculture biologique va conduire à un manque à gagner. Un manque à gagner, c'est pas très agréable, mais c'est pas catastrophique. Par contre, si celui qui a mis en culture les OGM pollue le champ de son voisin qui est en agriculture biologique, le voisin va perdre son label d'agriculture biologique, sa certification, et alors lui, il va perdre énormément. Il va perdre au moins 20 à 30% sur le prix de vente. Et comme tout son équilibre économique est basé justement sur un prix de vente plus élevé, s'il est obligé du jour au lendemain à vendre beaucoup moins cher, ben là, il est coincé. Donc, faussement parallèle. Mais bon, c'est vrai que difficile. Donc, je dirais que la question de la responsabilité, si on la pousse jusqu'au bout, elle doit aller au-delà de l'évaluation des risques et des bénéfices. Elle doit s'intéresser aux transformations du monde. Et la question est de savoir si ces transformations du monde sont justes et si les citoyens acceptent ou non de vivre dans un monde qui les aurait accueillis. Alors, j'aborderai maintenant la question du clonage animal. Les expériences de clonage animal s'inscrivent dans une configuration bien différente de celle des végétaux transgéniques. Et ceci sur trois points. Le projet scientifique, d'une part, le contexte économique et social, de l'autre, et la nature des problèmes éthiques. Comme on l'a vu au sujet des OGM, le projet scientifique qui a présidé aux recherches concernant la transgénèse est parti du présupposé que le développement, l'organisation et le métabolisme de tout être vivant résultent de l'expression d'un programme inscrit dans le génome. Pour peu qu'on ait décrypté le code, On peut enrichir le programme génétique de n'importe quel organisme avec de nouvelles informations, ce qui permet de modifier son développement, ses caractéristiques et son fonctionnement. Les scientifiques impliqués dans les expériences de clonage animal, tout du moins, bon, moi, j'ai pas enquêté, j'ai pas eu les moyens de faire des enquêtes en Angleterre ni aux États-Unis. Donc, je n'ai enquêté que dans l'unité de l'INRA qui a créé Lucifer et qui crée plein d'autres clones, s'inscrivent en faux, en fait, contre cette conception de la biologie moléculaire. Ils ont explicitement pour objectif d'étudier le développement embryonnaire non comme un mécanisme inscrit dans un programme, mais, disent-ils, comme une série de dialogues qui s'établissent plus ou moins bien entre le noyau et le cytoplasme de l'ovule, entre l'embryon et son environnement utérin, et ceci à différents stades. C'est insisté, d'ailleurs, selon eux, sur les régulations épigénétiques qui président au développement des organismes. Ainsi, les recherches de l'unité de biologie et du développement et reproduction supposent l'abandon d'un déterminisme moléculaire au profit d'une conception de l'auto-organisation du vivant. Cette différence conduit à une certaine prudence dans la formulation des promesses d'innovation technologique. Même si mes collègues ne sont pas des saints, pour pouvoir bénéficier de tous les moyens nécessaires, ils ne négligent pas l'occasion de faire valoir leurs prouesses techniques et même devant certains financeurs de dire, vous savez, ça peut être quelque chose de très intéressant pour plus tard, etc. Deuxième point, en matière de clonage animal, on est encore loin de disposer déboucher sur des innovations diffusables. On a certes envisagé d'utiliser le clonage soit pour dupliquer des reproducteurs exceptionnels, soit pour sauver des races d'animaux domestiques ou des populations de mammifères en voie d'extinction. Mais comme il faut en moyenne cloner une centaine d'embryons pour obtenir un ou deux clones viables et normaux, ces perspectives ne sont guère à portée de la main. Alors je me trouvais, c'est très drôle, je me trouvais justement dans l'unité en train de discuter avec des collègues lorsque l'on a appris que l'ours, Canel, je crois, avait été tué. Et immédiatement, il y a un des chercheurs qui dit « Il me faut son oreille ». Et son idée, c'était, l'oreille, pourquoi ? Ben, je vais la cloner. Bon, et là-dessus, on regarde, on lui dit, où c'est que tu vas trouver les mères porteuses ? Où c'est que tu vas trouver les ovules ? Les ovules de vache, c'est simple, on va à l'abattoir, les ovules de mouton aussi, les ovules de rat, bon, on euthanasie la bête et puis on récupère les ovules. D'ours, il va falloir trouver un certain nombre. Et puis ensuite, si tu veux en avoir une ou deux, une femelle, c'est pas assez. Donc, mettons deux femelles, il va falloir trouver une centaine, peut-être même plus, puisque c'est peut-être plus compliqué sur l'ours, de mères porteuses dans des eaux à tous les coins du monde. Il s'est gratté la tête, il a dit oui, c'est vrai, ben c'est pas possible, quoi. Mais la première réaction qu'il a eue, c'était de dire il me faut son oreille. Si quelques multinationales se sont lancées donc à corps perdu dans la mise au point et la production d'OGM végétaux, les entreprises et organisations professionnelles des filières d'élevage, qui sont d'ailleurs beaucoup moins concentrés, sont beaucoup plus circonspectes. Pour elles, c'est une technique encore peu crédible, et le clonage pourrait, de leur point de vue, avoir pour inconvénient à la fois de diminuer la diversité génétique du shtel, qui est déjà largement diminuée, comme un peu trop faible selon elles, et on redoute aussi au sujet des animaux clonés un rejet de la société civile aussi vif, et peut-être plus que celui qui concernait les OGM. Mais en même temps, elles utilisent, je dirais, le principe du minimax regret. Supposons qu'on parvienne à améliorer le rangement du clonage, que ça accorde un avantage considérable en matière de sélection et d'élevage aux pays ayant perfectionné la méthode, par exemple les Chinois ou les Américains. Alors, les entreprises et organisations professionnelles ne se pardonneraient jamais de n'avoir pas investi dans cette technique. Donc, ces entreprises, en matière de clonage animal, investissent quand même, mais sans trop y croire, juste pour rester dans le coup. Alors, outre qu'elle relève d'une conception plus réductionniste, la transgénèse sur mammifères a suscité plus d'intérêt, en particulier du côté de l'industrie pharmaceutique, que le clonage. Des start-up se sont positionnées au sein même de l'unité que j'ai étudiée, et des entreprises ont déjà produit pour la recherche médicale des souris transgéniques simulant diverses maladies. Mais en dépit des promesses qui se construisent de la sorte, et qui oriente d'ailleurs la dynamique de la recherche dans tous les laboratoires. D'ailleurs, le laboratoire donc, que j'ai étudié est en train actuellement de se réorienter vers la recherche agronomique à la recherche médicale, très, très, très nettement. En dépit des promesses qui se construisent et qui orientent la dynamique de recherche en contribuant à construire grâce à l'afflux de capitaux une bulle technologique, il n'y a encore pas grand-chose à voir avec l'énorme effort de concentration et de recherche-développement qui fut celui des entreprises de l'agrofourniture en faveur des végétaux transgéniques dans les années 80 et 90. Troisième point, en raison du caractère encore largement expérimental du clonage et de la transgénèse animale, il est difficile d'envisager les risques sanitaires et environnementaux dont les promoteurs d'animaux transgéniques ou clonés pourraient se trouver responsables. Pour les mêmes raisons, il est à ce jour difficile d'anticiper les conséquences non réductibles au risque, ces transformations du monde associées dont je parlais, qui sont des conséquences non réductibles au risque, d'opérations qui demeurent encore des techniques de laboratoire. Par contre, les animaux clonés ou transgéniques sont d'authentiques animaux. Et comme il s'agit en l'occurrence de mammifères, dans l'étude que j'ai faite, ce sont des êtres sensibles, dotés d'états mentaux. Appliqués à ces organismes, le génie génétique pose ainsi des problèmes spécifiques. Et à l'inverse du cas des OGM, ces problèmes interviennent avant que la technique ne sorte du laboratoire, dès l'expérimentation scientifique, et même dès la formulation des programmes de recherche. Puisque l'on a affaire à des êtres capables de souffrir, le traitement qu'on leur fait subir n'est pas moralement neutre. Du point de vue éthique, la question du clonage, comme celle de la transgénèse animale, est celle de la responsabilité d'un chercheur, inscrit dans un contexte social, dans l'individuation de clones ou de transgènes. Cette responsabilité embrasse l'ensemble des échecs nécessaires à l'obtention des quelques rares réussites. Elle prend donc en compte les 98% d'avortons, de morts-nés, d'animaux non viables, bref, tous les clonés qui ne sont pas parvenus à une existence normale. Donc, certains lots de souffrances animales, mais aussi un certain lot de souffrances humaines, parce qu'il s'est avéré, quand on a fait un travail de réflexion, que, travailler à faire avorter des clones, c'est très désagréable, d'autant plus que les gens qui travaillent à l'INRA, qui sont des techniciens animaliers de gros bétail à l'INRA, sont souvent des fils d'éleveurs ou des éleveurs eux-mêmes ou des gens qui voulaient être éleveurs et qui n'avaient pas de capitaux pour s'installer et qui se sont dit être salariés à l'INRA, c'est bien pour ça. Et ça choque profondément leur propre éthique professionnelle. Alors, un autre aspect de la responsabilité des scientifiques engagés dans ces manipulations génétiques sur mammifères mériterait attention. Alors, si je parle de ça, je peux dire, j'en parle d'autant plus à l'aise que les choses sont très claires. J'ai fait une enquête dans ce laboratoire, mais il y a en plus de ça quelqu'un qui a commencé une thèse avec moi qui est dans ce laboratoire, qui a arrêté sa thèse de philo pour faire une thèse de génomique, parce qu'elle avait les deux. Elle avait un DEA de génomique et un DEA de philo. enfin, disons, elle avait un DEA de philo et une maîtrise de biologie. Je l'ai conduite à aller dans ce laboratoire avec l'accord total des chercheurs du laboratoire. Comme j'avais pas les moyens de lui donner une bourse de DEA, elle a passé un DEA de génomique. Il était tellement bon qu'elle a eu une bourse. Et donc, elle a abandonné sa thèse de philo pour faire une thèse de génomique, hein, sur tout à fait intéressante d'ailleurs. C'est une thèse qui porte sur les, justement, pour montrer que deux clones sont génétiquement plus différents que deux jumeaux, parce que au moment de ce qu'ils appellent la déprogrammation, il se passe assez souvent des mutations ou alors des méthylations qui empêchent les gènes de s'exprimer. Et donc, on peut avoir comme ça deux clones qui ne se ressemblent absolument pas, ou bien un chat roux et un chat noir. Bon. Donc, elle travaille là-dessus. Et c'est ce que je dis, bon, c'est des choses qui ont été discutées avec les chercheurs en question. Ils ne sont pas tous d'accord, hein, mais disons qu'au moins... Il y a une assez bonne entente. On fait partie du même programme ANR, donc voilà. Alors, un autre aspect de la responsabilité des scientifiques engagés dans ces manipulations mérite attention. On peut en effet se demander dans quelle mesure ces recherches ne contribuent pas à accumuler les conditions d'opération similaires chez les humains. Certes, ces recherches militent en défaveur de l'application aux hommes de manipulations telles que la transgénèse et le clonage. La casse est telle que l'on est en droit de penser qu'aucun chercheur, aucun médecin ne sera assez inconscient pour tenter de telles expériences sur les hommes. Et justement, les recherches entreprises ont aussi pour objectif de comprendre pourquoi il y a tant d'échecs et d'augmenter le rendement d'opérations de clonage et de transgénèse. Il est donc nécessaire d'inscrire ces activités dans un débat plus large, à savoir quel rapport peuvent-elles avoir avec les fictions. Ce sont encore que des fictions, mais vous savez à quel point les fictions scientifiques tendent à devenir autoréalisantes, dans la mesure où ces fictions rendent crédibles des bluffs technologiques et attirent des postes et des capitaux. Donc, quel rapport peuvent-elles avoir avec les fictions de clonage humain, voire d'amélioration de l'espèce humaine? Ce projet, puisque ce projet existe, il a été signé, il s'appelle Human Enhancement, il est cher au Pentagone, et a beaucoup de promoteurs du programme de convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'informatique et les sciences cognitives, ce fameux programme NBIC qui, à mon avis, est la future bulle technologique. Celle des, la bulle technologique des OGM est en train de la transgénèse est en train de s'effilocher. Les nanotechnologies ont fait rêver d'abord les militaires, mais pas seulement eux. Dès que les militaires rêvent, les possesseurs de capitaux se mettent à rêver aussi. Donc il y a eu de l'argent qui est arrivé en masse sur les... oui, bien sûr, l'argent des contribuables, mais pas seulement, qui est arrivé en masse sur les nanotechnologies. Et du coup, il y a eu un programme de convergence entre nanotechnologies, biotechnologistes, etc., pour faire quelque chose d'encore plus important. Alors, le Human Enhancement, bon, ça peut être un rêve. Quand je dis c'est des fictions, c'est des gens qui... on arrive même à parler de post-humanité, avec des hommes qui pourraient être modifiés génétiquement pour vivre plus longtemps, pour résister à certaines maladies, et qui en plus de ça auraient des puces, seraient reliés à des ordinateurs pour augmenter leur mémoire, leur capacité cognitive, etc. C'est pas tout à fait un rêve américain, hein. J'ai récemment entendu un chercheur français, je tairai son nom. Quoi ? Voilà. Expliquer qu'un certain gène P53 confère, lorsqu'il est en double ou triple exemplaire, une meilleure résistance au cancer que lorsqu'il est présent en un seul exemplaire. les résultats d'implantation par transgénèse de gène P53 dans le gène de souris sont encourageants. Même si on en met deux, la souris en avait qu'un, on en met deux, et si on en met trois ou quatre, ça devient assez terrible. Suggère donc que si l'on parvenait à transférer ce gène de protection contre le cancer chez l'homme, les familles à risque considéreraient comme un devoir moral d'offrir à leurs enfants cette amélioration génétique. Ce pourrait être, dans un second temps, étendu à tous les individus qui se trouveraient ainsi protégés de certains cancers. Bon. Supposons que tous les laboratoires concernés parviennent à résoudre les difficultés techniques de la transgénèse sur mammifères, et qu'on soit en mesure, sans trop de carse, à renforcer les génomes de zygotes humains en gène P53. Supposition, ça sera dans pas mal de temps. Tout couple pourrait alors, à travers la procréation in vitro et la manipulation génétique de l'embryon, obtenir des enfants améliorés. J'imagine aisément que les propriétaires et les médecins des centres de procréation médicalement assistée se frotteraient les mains. Mais cela veut dire aussi que cette amélioration génétique ne serait pas à la portée de tout être humain. On va pas, c'est pas les je sais pas combien il y a de dizaines de millions d'enfants qui naissent chaque année dans le monde, mais ils vont pas tous naître par procréation médicalement assistée. Cette amélioration, elle se ferait certainement plus à Manhattan qu'au Burkina Faso. Si cela advenait un jour, une inégalité sociale renforcerait une inégalité biologique. L'amélioration génétique n'étant à la portée que des pays riches et des couples aisés. J'en arrive maintenant à ma conclusion. J'ai en focalisant l'examen de ces biotechnologies sur la responsabilité, considéré implicitement que l'effacement de la distinction entre la nature et l'artifice s'effectuer au profit de l'artificialité et donc de l'extension d'une éthique de la responsabilité. Il n'est pas inutile de signaler que le discours de justification que tiennent de nombreux scientifiques et les promoteurs des biotechnologies, et plus encore ceux qui militent en faveur de la convergence entre nanotechnologie, biotechnologie, etc., etc., tend à l'inverse à les déresponsabiliser, en présentant le développement de toute nouvelle technologie comme un processus quasiment naturel. En fait, cette artificialisation de la nature est faite par un développement de la technique qui est lui-même naturalisé. L'idée est ancienne, que la production d'artifices fait partie de l'histoire naturelle de l'homme. On peut la faire remonter à Hume, par exemple. On peut aussi, d'un point de vue darwinien, considérer que parce qu'elle modifie les modalités de la sélection naturelle au profit des humains, la technique est inscrite dans l'évolution et que les lois de l'évolution s'appliquent aux techniques. Par ailleurs, il existe une conception évolutionniste des techniques, illustrée en particulier par le roi Gouran, qui n'est pas sans valeur heuristique, ne serait-ce que pour mettre en lumière des lignées d'objets techniques avec des bifurcations singulières sous forme d'innovations qui inaugurent de nouvelles lignées. Mais les prometteurs de ces nouvelles technologies dévoient cette démarche scientifique et utilisent l'hypothèse d'une inscription de la technique dans l'évolution, et ça c'est très vrai pour les promoteurs de NBIC, hein, dans l'évolution, pour avancer que le cours du développement technique étant un processus naturel, soumis à la sélection naturelle, il ne sert à rien de vouloir l'entraver. Sans recourir à cette naturalisation explicite du développement technologique, d'autres arguments reviennent à peu près au même. La version la plus commune de la naturalisation du développement technologique est la référence à la loi de Gabor. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on entend assez souvent exposer. La loi de Gabor, c'est « tout ce qui est techniquement possible se réalisera ». C'est manifestement faux, parce que il y a plein de choses qui étaient techniquement possibles et qui ne se sont pas réalisées. Enfin, cette loi justifie tous ceux qui n'entendent pas se faire dépasser par cette marche inéluctable du progrès. Plus banalement, on va faire de l'innovation promise le résultat inévitable d'un mécanisme aveugle, celui de la concurrence. Alors ça, c'est l'argument que j'entends très souvent de la part de mes collègues. Si la recherche française ne s'y investit pas, ça se fera quand même nécessairement, référence à la loi de Gabor. Et ce seront les Américains, avec leur confiance dans la sound science, les Japonais, les Coréens, les Chinois, avec leur mépris de l'éthique, qui le feront. Et on sera à la traîne. Mais de toute façon, ça se fera. Bon, référence à la concurrence et donc à l'économie est explicite. Or, l'économie est une façon de naturaliser la vie sociale, qu'elle conçoit comme un ensemble de mécanismes sur lesquels les hommes n'ont aucune prise. Et sur lesquels les États ne doivent avoir aucune prise. On sort ainsi d'une conception de la technique en termes de moyens et de fins, ce qui suppose un projet et donc un sujet, pour une conception du développement technique en termes de processus aveugle, sans sujet, sans maîtrise possible. Cette conception naturaliste aurait ainsi pour conséquence de libérer les réseaux sociaux techniques impliqués dans la conception et la diffusion de telles innovations de toute responsabilité. Ce serait alors la fin de l'éthique telle qu'elle peut s'appliquer au développement scientifique et technique, mais aussi la fin de toute possibilité de contrôle politique et social de l'innovation technologique. On peut alors comprendre que des citoyens s'y soient opposés.
Merci beaucoup, Monsieur Larère, de cette conférence digne d'une conférence de clôture. Vraiment, vous remercie infiniment, c'est superbe. Et vous avez posé des problèmes concrets dont on a parlé hier, vous avez élargi le débat à l'éthique. Et vraiment, je vous remercie infiniment d'être venu chez nous. On est tous ravis. Et je pense qu'il va y avoir quelques questions dans la salle. Je l'espère.
Merci de m'avoir invité.
Non, c'était bien, c'était très bien. On n'a pas trop de temps, mais...
D'après ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a des petites choses, enfin des petits détails. Vous nous avez dit que tous les chercheurs s'entendaient bien, vous vous entendez bien tous ensemble. Et donc ça voudrait dire que tous les chercheurs ont autant de scrupules que vous ?
Non. On peut très bien s'entendre bien et ne pas avoir les mêmes opinions.
Oui.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que... il y a dans cette unité de recherche de l'INRA une volonté de réfléchir vraiment à ce qu'ils font. Pas tous, mais certains se posent des questions sur la légitimité de leurs interventions sur les animaux, sur pourquoi on fait ça, quel intérêt ça peut avoir, etc. Il y a eu à un moment donné d'ailleurs des critiques internes qui disaient mais au fond c'est intéressant ce qui est intéressant c'est les mécanismes de reprogrammation passant d'une cellule parce que en fait le clonage n'est pas un clonage on prend une cellule d'épithélium de peau. Et puis on prend un ovule, on enlève le noyau de l'ovule et puis on met la cellule de l'épithélium de peau. Ensuite, on fait un certain nombre de chocs. Enfin, on met l'ovule dans un champ électrique pour le faire absorber des ions calcium et ça engage un processus qui fait que le cytoplasme de l'ovule reprogramme, fait que la cellule d'épithélium qui ne pourrait produire en se divisant que des cellules d'épithélium redevient totipotente, redevient comme un ovule normal. Enfin, en fait, il n'est pas normal. Il n'est pas normal parce qu'il se passe des bricoles au moment de la reprogrammation. Il y a un certain nombre de gens qui, par exemple, se disaient il suffit qu'on fasse ça, qu'on comprenne ça, qu'on comprenne comment ça marche, puisque notre objectif scientifique, c'est ces mécanismes de type épigénétique qui sont capables de faire passer une cellule spécialisée en cellule totipotente. C'est ça qu'on veut faire. C'est pas la peine de l'implanter dans une vache, puis d'avoir tous ces veaux qui crèvent. Et ça, si on fait ça, c'est uniquement pour des raisons de performance, hein, puisque c'est ça qui nous permettra. Alors, c'est vrai que c'est ça qui nous. Enfin, donc les gens se posent des questions. Le directeur du labo lui-même, bon, parce qu'il a des ambitions scientifiques, ils ont fait des travaux tout à fait remarquables au niveau scientifique, et il est désespéré en voyant que ce qu'il arrive à publier dans les meilleures revues internationales, c'est pas réellement ses travaux scientifiques, mais c'est le fait qu'il ait réussi le premier à cloner un rat. Alors, cloner un rat, c'est... Pour lui, c'est rien. C'est de la technique, c'est du bricolage, etc. Et donc, il se pose des questions. Tous ne se posent pas des questions. Dans le même labo, il y a quelqu'un qui a lancé une start-up, hein, et qui, lui, au contraire, est sur la transgenèse, et il va à fond la caisse et intervient régulièrement pour défendre la transgenèse, etc. etc. Bon, mais... alors... Il y a certaines tensions dans le laboratoire, mais d'une certaine façon, nous on y est allé, on a proposé de travailler dans un même programme de recherche, justement sur les questions éthiques et épistémologiques que posaient les biotechnologies. Et donc c'est là que j'ai mis un. J'ai conduit cette jeune femme qui fait sa thèse de génomique, mais qui est philosophe par ailleurs et qui terminera sa thèse, je ne sais pas trop avec qui, puisque moi je suis à la retraite, quand elle reprendra sa thèse de philo. Bon, et puis elle était avec Anne Fagot-Largeau aussi, qui est à la retraite. Donc je ne sais pas du tout comment... Hein, qui n'est pas à la retraite encore, elle a jusqu'à 70 ans, je crois, au Collège de France. Mais bon... Mais donc, je ne sais pas, bon, elle trouvera bien quelqu'un. Et on travaille, on a travaillé alors, sous deux formes différentes. Hein, premièrement, en faisant des enquêtes, en réalisant des séminaires réguliers où ils viennent. Et puis, alors là, c'est Béatrice de Montera qui l'a mis en place, donc la thésarde. Avec l'appui du président du centre, en réalisant un séminaire sur le thème animaux de laboratoire, animaux de recherche et éthique. Et séminaire qui avait lieu tous les mois, où il y avait quand même une cinquantaine de personnes à chaque fois. Et le dernier pas qui a été fait, qui était à mon avis le plus important, ça a été d'utiliser la réunion annuelle des techniciens animaliers pour demander aux techniciens animaliers de s'exprimer sur le sujet. Et il y a eu une séance ils ont travaillé en petits groupes, etc. Il y a eu une séance d'un séminaire, le dernier séminaire était consacré à ça, et c'était assez perturbant.
On va organiser dans 2 ans, je vous en reparlerai, une journée d'études. Je voulais faire quelque chose sur justement le rapport homme-animal, ouais, à travers l'histoire, hein, et ouais, ensuite parler aussi des problèmes d'éthique actuels. Donc on en reparlera, parce que vous parlez d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur dans le cadre de nos journées d'études. Donc est-ce qu'il y a d'autres...
Oui, moi j'étais intéressé par votre conception des bulles technologiques qui enflent et qui se rétractent par la suite. Et je suis assez d'accord. Parce que généralement, quand on démarre sur un ensemble de nouveautés technologiques, il y a beaucoup d'espoir qui sont mis dedans. C'est tout à fait logique. Et au bout de quelques années, voire quelques décennies, il y a le bilan qui est fait. Voilà. On pourrait parler de recherche en physique nucléaire, dire qu'il y en est resté des choses comme de l'imagerie médicale, ce qui est assez positif, par exemple. Et moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est selon vous, qu'est-ce qui va rester alors de cette bulle sur les biotechnologies et sur la transgénèse en particulier?
Je sais pas.
Vous qui avez côtoyé
je sais
des
pas.
Gens qui en parlent tous les
jours. Ce que je peux dire... Non, alors, je vais vous dire pourquoi je sais pas. J'ai fait partie d'un... C'était il y a 3 ans de ça. J'étais membre du conseil scientifique de l'INRA. Et une commission avait été nommée, enfin, dans ce conseil scientifique, pour produire un rapport, qui est sur le site, hein, INRA, pour produire un rapport sur quelle attitude de l'INRA vis-à-vis des OGM. Et en fait, on était parti de l'idée que, au fond, ce qui avait été l'erreur magistrale conduisant justement au blocage, c'était de dire, bon, ben, j'ai réussi une transgenèse, je vais essayer de vendre ça. Alors qu'il fallait prendre les choses autrement, se poser la question de dire qu'est-ce que serait une agriculture durable. Dans le cadre d'une agriculture durable, une fois qu'on en a une idée un peu plus claire, quelles seraient les améliorations génétiques les plus intéressantes? Quels sont les outils dont on dispose? Et s'il s'avère que parmi l'ensemble des outils dont on dispose pour obtenir cette amélioration génétique, c'est la transgenèse qui a le moins d'inconvénients, pourquoi pas la transgenèse? C'était ça un peu l'attitude de ce vers quoi on s'orientait, hein, la commission s'orientait. Et on auditionnait des gens, et on a donc auditionné quelqu'un qui représente une firme. Et là-dessus, il commence à nous dire, mais je ne comprends pas très bien votre truc. Donnez-moi un exemple. Alors, on se gratte la tête. Quelque temps avant, il y avait un chercheur de l'INRA qui nous avait dit, ah ben, par exemple, il y a quelque chose qui serait intéressant. Moi, je sais faire ça. Je fais ça très bien sur Arabidopsis. Il n'y aurait pas de problème sur le colza. Ouais. C'était à partir de... J'ai eu un trou là. Il n'y aurait pas de problème sur le colza. Ben, vous savez, si les abeilles se portent mal, c'est certainement au sujet du gaucho, mais il y a aussi le fait qu'elles se portent particulièrement mal partout où il y a beaucoup de colza, parce que le colza est une plante, le pollen de colza est carencé en protéines. Moi, je sais, sur Arabidopsis, faire du pollen qui n'est pas carencé en protéines. Si on faisait par transgenèse, s'il s'avère que c'est... Bon, je sais le faire, s'il s'avère que c'est pas mal, pourquoi on ne pourrait pas faire un colza amélioré pour les abeilles seraient contentes? Ça ne serait pas gênant pour l'agriculteur, ça ne risque pas d'être gênant dans le cas de croisement, etc. Donc, pourquoi pas? Et donc, on lui ressort ça en disant, ben voilà, nous, on n'a pas beaucoup d'idées, mais enfin, c'est quelqu'un qui nous a dit ça, ça peut rentrer dans le cadre d'une agriculture durable, ça, pourquoi pas? Et le type nous regarde, il dit, non, mais vous foutez de ma gueule. On regarde. Bah, à moins de 13 millions d'hectares, moi, j'interviens pas. Donc, je ne sais pas si la stratégie qui serait, à mon avis, une bonne stratégie est susceptible de trouver des entreprises pour les accepter.
Je suis assez d'accord.
Bon, on est malheureusement obligé d'arrêter parce que notre conférencière s'en train tout à l'heure. Merci infiniment, Monsieur Larère. Merci beaucoup, oui, à notre public. Merci pour ces deux journées. On aura d'autres. Merci beaucoup. On aura d'autres thèmes, hein, sur les biotechnologies, etc., sur l'éthique. Merci.
J'étais accompagnateur d'un groupe de lycéens qui a...